Sud Radio. Le grand show de l'info.
Cyril Brioulet.
Bonsoir, ravi de vous retrouver pour le grand show de l'info sur Sud Radio. Le ouf de soulagement de milliers de retraités. S'ils ne payaient pas d'impôts locaux l'an dernier, ils n'en paieront pas cette année ni l'an prochain. Le gouvernement fait marche arrière face à la montée de la colère des retraités. Ils demandent même de ne pas payer l'impôt, c'est inédit.
C'est juste que c'est à ne rien comprendre. Il faudrait quand même des gens peut-être compétents qui, avant de lancer une mesure comme ça, réfléchissent. C'est quand même pas anodin. Le type qui a du pognon, c'est pas trop grave, mais celui qui a rien, qui joint les deux bouts à l'euro près, c'est difficile à vivre, quoi. Voilà.
3 ans après la mort de Kevin et Sofiane près de Grenoble, lynchés par d'autres jeunes, le procès s'est ouvert aujourd'hui. Leurs amis d'enfance ont créé un collectif pour pacifier les relations dans les quartiers. Bonsoir René Germain.
Bonsoir Cyril Brioulet.
Vous nous parlerez d'économie comme chaque jour. Le prêt à taux zéro va être élargi.
Oui, c'est le président de la République qui l'a annoncé il y a quelques jours. Nous allons revenir sur cette mesure qui va intéresser beaucoup de ce que l'on appelle, vous savez, les primo-accidents, ceux qui vont acheter pour la première fois.
Vous nous direz tout dans une vingtaine de minutes. Yolaine Delabigne nous parlera d'environnement comme chaque jour. Elle a trouvé un aspect positif et inattendu à la pollution de l'air. Charles Begbédé, l'invité du Grand Show de l'Info aujourd'hui. Bonsoir.
Bonsoir.
Chef d'entreprise, vous publiez Merci Patron aux éditions Librio. C'est un hommage aux patrons, petits et grands.
C'est un message d'espoir qu'il y a en France un phénomène qui est l'entrepreneuriat. De plus en plus de Français qui créent une entreprise et que ceci pourrait se traduire par beaucoup d'emplois créés et donc une baisse du chômage, mais à condition d'avoir un environnement plus favorable à cette création d'entreprise.
Vous parlez d'hommes et de femmes qui ont fait le choix de l'audace et de l'inventivité.
Oui, et puis qui trouvent aussi leur vocation, parce que on est bon quand on aime ce qu'on fait, et c'est pas toujours le cas quand on est fonctionnaire ou quand on est employé dans un grand groupe. On n'est pas forcément très utilisé à 100%, enfin, c'est un mauvais mot, il faut pas utiliser ce terme utilisé, mais alors que quand on crée sa propre activité, eh bien on va se révéler, on va trouver sa vocation, on va être très bon et du coup on va s'éclater, on va s'épanouir, on va peut-être prendre des risques supplémentaires, mais je pense qu'on va trouver un peu plus de sens, en tout cas, à sa vie professionnelle, du moins.
Oui. On parle régulièrement, des fois, de patrons voyous. Vous, votre livre, c'est aussi une façon de dire que la plupart des patrons, ils sont pas comme ça, évidemment. Ils sont nombreux à faire de longues heures pour leur entreprise et pour leurs salariés.
Ah bah oui, c'est sûr. Non mais attendez, les patrons voyous, c'est toujours les mêmes. Donc, enfin, d'abord, il n'y en a pas tant que ça, mais c'est quelques dizaines qui parfois défraient la chronique. Mais à côté de ça, il y a 3 millions de patrons. Donc l'immense majorité des patrons d'entreprise sont des entrepreneurs qui gagnent à peine 3 000 euros par mois en moyenne et qui prennent des risques. On a tous un parent, un ami qui a créé sa boîte maintenant. C'est-à-dire que entre la fonctionnariat et le salariat, il y a cette troisième voie qui s'ouvre, c'est l'entrepreneuriat et c'est pas des salauds, au contraire. C'est pour ça que je dis merci patron.
Et vous faites aussi des propositions de réforme dans Merci Patron. On va y revenir un petit peu plus tard. Charles Begbédé est dans le grand show de l'info sur Sud Radio.
Sud Radio.
Cyril Brioulet.
Le grand show de l'info.
L'État va rembourser les impôts d'une partie des retraités. C'est à suivre dans un instant dans le grand show de l'info. On vous donnera toutes les explications. Nous sommes aujourd'hui avec Charles Begbédé pour le livre Merci Patron aux éditions Librio. Le patron, vous le dites, Charles Begbédé, dans le livre, a parfois, souvent, mauvaise réputation. C'est une façon aussi pour vous de lutter contre ce qui peut être un cliché.
Oui, mais encore une fois, en réalité, les gens... Ils aiment le petit patron, l'artisan, le créateur d'entreprise, le start-upper, même leur propre patron, qui est donc dans l'immense majorité des cas un patron de PME ou voire de TPE. C'est faux que les Français n'aiment pas leur patron. C'est une manipulation. C'est un peu une espèce de poncif peut-être qui vient de combats syndicaux du passé et puis de quelques en effet errements de certains hauts dirigeants qui au moment de partir d'une entreprise, d'une grande entreprise, là, oui. Donc là on parle plutôt du CAC 40, sont partis avec des bonus énormes alors qu'ils avaient échoué. Donc c'est ça qui alimente la cette image, la vérité, la réalité, ce n'est pas ça. La réalité, c'est que le patron, maintenant, c'est un petit entrepreneur, c'est un artisan, c'est monsieur tout le monde, et il prend des risques, il crée parfois de l'emploi, parce que pas assez, parce que malheureusement l'immense majorité des entreprises sont des micro-entreprises avec juste un seul salarié, c'est-à-dire le patron lui-même. Donc l'idée c'est justement leur permettre d'embaucher plus de gens, ne serait-ce qu'une personne. Imaginez si un million d'entreprises créent un emploi de plus, ben voilà, le chômage c'est plus un problème, on est revenu au niveau comparable avec les autres grands pays européens. Donc je pense que c'est ça ce que j'essaie de dire. Je suis pas le seul, on est beaucoup, et je crois que les Français, ils ont compris que les patrons, ben, c'était des gens comme eux, en réalité.
Le livre s'appelle « Merci patron ». Charles Becbédé était avec nous aujourd'hui dans le grand show de l'info. Ne payez pas vos impôts, c'est le message inédit lancé par le secrétaire d'État au budget. Christian Eckert demande aux 900 000 retraités modestes qui ont dû payer pour la première fois les taxes foncières ou la taxe d'habitation ou qui les ont vues exploser, de ne pas les régler. Ceux qui l'ont déjà fait seront remboursés. Une exonération décidée pour 2015 et 2016. Écoutez la réaction de René Patrice, il préside l'Union française des retraités.
Il y a un certain nombre de gens très modestes, hein, parce que ce sont restés évidemment aux plus modestes, ceux qui n'étaient pas imposables, qui ont eu une angoisse terrible. D'abord, certains ont dû se saigner un peu à blanc pour payer ses impôts. D'autres ont peut-être pas payé en rentrant la tête dans les épaules en disant « qu'est-ce qui va m'arriver ? L'administration fiscale, c'est terrible, on va venir me saisir quelque chose. » Enfin, bon, ils ont eu la pétoche, donc ils ont subi un petit préjudice quand même. Faut être sérieux, hein, c'est quand même pas anodin. Le type qui a du pognon, c'est pas trop grave, mais celui qui a rien, qui joint les deux bouts à l'euro près, c'est difficile à vivre, quoi. Voilà ce que j'en pense. Cela dit, c'est sympa de s'en rendre compte et de rembourser.
Bonsoir Lionel Maillet.
Bonsoir.
Expliquez-nous comment va se passer ce remboursement.
Alors écoutez, à en croire le gouvernement, tout ça sera assez simple. Il y a en fait deux cas de figure. Le premier, vous avez déjà payé votre impôt, pas de démarche à faire. C'est le fisc qui va faire le point et vous rembourser d'ici la fin de l'année. Ça sera par chèque ou par virement bancaire. En revanche, si vous n'avez pas encore payé, là, c'est bien le gouvernement lui-même qui vous le demande. Ne payez surtout pas, en fait, vous faites comme si vous n'avez jamais rien reçu. En clair, vous pouvez prendre votre taxe d'habitation et la déchirer. Ça vous fera du bien. Par contre, tous ceux qui payaient des impôts jusqu'à présent et qui ont vu leur imposition flamber, là, pour eux, rien ne change et c'est très important. Reste que tout ça est une première pour l'État et qu'il va falloir un cadre légal pour rembourser. Le Parlement va devoir voter un texte dans ce sens. Au passage, on note que ça va coûter au bas mot 200 millions d'euros pour l'État.
Le mal est déjà fait, hein, Lionel, pour des milliers de retraités.
Ah oui, c'est peu dire, Cyril, que certains ont vu rouge en recevant leurs impôts en octobre. Ils n'avaient jamais rien payé et ont basculé du jour au lendemain dans l'imposition. L'équivalent d'un mois de retraite à débourser, en moyenne un millier d'euros. Des retraités donc très modestes, avec peu ou pas d'économie forcément, et qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts. La facture a été lourde et même s'ils vont être remboursés, en attendant cet argent va manquer, puisque remboursé avant la fin de l'année. Entre-temps, il y a Noël et les fêtes qui approchent. Parlons aussi de tous ceux qui n'ont pas eu les moyens de payer et qui ont vécu avec l'angoisse et la boule au ventre de savoir ce que le fisc allait leur réserver.
Merci Lionel Maillet. Frédéric Tristram, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, spécialiste de la politique fiscale. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. C'est une première qu'un gouvernement demande de ne pas payer ses impôts.
C'est en effet jamais vu. C'est quelque chose de très exceptionnel. Et ça sent un peu l'improvisation, voire la panique.
La panique, carrément.
Ah oui, parce que c'est tout de même quelque chose un peu invraisemblable que l'impôt ait été calculé, que les gens aient reçu leur avis d'imposition et qu'on leur demande de ne pas payer ou qu'on assure un remboursement à ceux qui l'auraient fait. C'est étrange quand même.
C'est une rectification selon vous du gouvernement ? C'est une marche arrière ?
Alors, c'est ni l'un ni l'autre, c'est à mon avis une mauvaise prise en compte des conséquences d'une législation qui est maintenant relativement ancienne, qui est la suppression de la demi-part de quotient familial pour les veufs ou les veuves. Et donc qui a conduit, alors on est dans le quotient familial, c'est un peu technique, c'est sur l'impôt sur le revenu, mais qui par le jeu des exonérations, etc., a des conséquences sur la fiscalité locale et qui n'a pas été prise en compte. D'ailleurs, elle avait été prise en compte l'année dernière, un peu en 2015, curieusement, on a oublié. Alors on a oublié le service de législation fiscale, la direction du budget, les commissions des finances des assemblées, surtout de l'Assemblée nationale, le secrétaire d'État au budget, c'est passé au-dessus de la tête de tous ces gens-là qui ont laissé l'impôt suivre son cours et puis un peu plus d'un mois des élections régionales se sont rendus compte que ça a fait des effets désastreux.
Car la colère des retraités était de plus en plus forte.
Importante de l'opinion.
Oui. 900 000 personnes quand même concernées, c'est
900
pas rien.
900 000 personnes, des retraités, c'est-à-dire des gens des plus de 60 ou 65 ans qui se mobilisent plus massivement pour des élections intermédiaires, donc dont le poids électoral est même supérieur au poids démographique, et ce sont des classes moyennes inférieures, c'est des gens qui généralement votent plutôt pour la gauche ou le Parti socialiste.
Donc ça veut dire que si ces gens-là n'avaient rien dit, avaient payé sans broncher, la mesure aurait été maintenue.
Bah, je pense qu'il y a eu un bug, hein, comme on dit aujourd'hui. Il y a eu vraiment un bug fiscal. Oui. La mesure aurait été maintenue. Maintenant, il faut s'intéresser aussi aux conditions juridiques dans lesquelles, avec un effet rétroactif, ces mesures de remboursement ou de non-paiement vont pouvoir être validées. Hein.
Mmh. C'est-à-dire que juridiquement, il faudra faire attention.
Ah, il faut faire attention. Et puis, il faudra faire attention aussi sur les modalités et les délais de remboursement.
On voit que les impôts, ça reste toujours un sujet hyper sensible.
Oui, alors d'autant plus aujourd'hui, puisque on est quand même au terme d'une période d'augmentation très importante de la fiscalité. Hein. Le choc fiscal qui a commencé d'ailleurs avant l'élection de François Hollande, qui date de 2011, qui a été poursuivi par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, et qui a pu générer un sentiment de rejet chez une partie croissante de la population.
Une partie des Français rejette carrément les impôts aujourd'hui ?
Ah, je le pense. C'est-à-dire qu'on arrive à des phénomènes d'opposition tels qu'on ne les avait pas vus depuis le poujadisme ou le début des années 70 avec le Sidunati.
Le Sidunati, oui, c'est la Confédération de défense des travailleurs indépendants. Merci Frédéric Tristram, vous êtes historien, spécialiste de la politique fiscale. Charles Becbédé est avec nous aujourd'hui pour son livre « Merci patron. Vous êtes élu à Paris, Charles Becbédé, vous vous présentez comme un dissident de droite. Que pensez-vous de cette décision du gouvernement ? C'est une mesure juste, une mesure tardive ?
Ben c'est quand même pas très pro. Franchement,
ça fait amateur ?
Ça fait amateur. Amateur, impréparé, c'est incompréhensible. D'autant plus qu'on parle des 950 000 qui vont subir, soit qui vont devoir payer une taxe d'habitation ou une taxe foncière, ou qui la voient augmenter, mais ils subissent aussi une augmentation de la CSG. On en parle peu, pourtant c'était cité ce matin dans le Figaro. Il y a 617 000 veufs et veuves qui ont subi une augmentation de la CSG, et ça représente 519 euros en moyenne. Donc est-ce que ça va aussi être remboursé, ou est-ce qu'il faut, parce que ça a été prélevé à la source, je pense, comme la CSG, et est-ce que ça va être remboursé ? Tout ça ne contribue pas à la crédibilité, la lisibilité de la politique du gouvernement, à rétablir la confiance qui est indispensable si on veut qu'il y ait de la croissance. Donc Valls qui en plus essaye de jouer le type super pro, efficace, là, alors, il doit être fou de rage contre son ministre des Finances.
Ça paraît insensé quand même qu'on décide d'une mesure comme ça sans en mesurer toutes les conséquences. Ces avis de paiement, on l'entendait, ont eu un impact énorme pour ces retraités.
Oui, et d'autant plus qu'à l'Assemblée nationale, il y avait eu des députés qui avaient évoqué cela en son temps, qui avaient dit attention, ça va avoir des conséquences, et on les a pas écoutés. Ils étaient de droite, de gauche, et on les a pas écoutés.
Le grand show de l'info avec aujourd'hui Charles Becbédé. René Girma nous a rejoint pour parler d'économie. René, le gouvernement souhaite que les jeunes et moins jeunes deviennent propriétaires. Il veut élargir le prêt à taux zéro.
Oui, et c'est même le président de la République qui l'a annoncé à Nancy il y a quelques jours. Renforcement significatif du prêt à taux zéro, le PTZ. Alors le PTZ a été inventé en 1995 pour doper l'achat par des ménages aux revenus modestes ou moyens de leur premier logement, ce que l'on appelle les primo-accédants. Depuis 95, ce PTZ a évolué à de multiples reprises parce que c'est très simple, il suffit d'un décret pour le modifier. François Hollande indique que les nouvelles mesures entreront en vigueur le 1er janvier prochain. Parmi les changements promis, les ménages à qui ils seront accordés seront modestes, plus long sera le prêt. On va allonger ce PTZ, il pourrait même aller jusqu'à 21 ans. Autre changement, le PTZ va permettre d'acheter un logement ancien, ça c'est nouveau, un petit petit peu nouveau, à condition d'y réaliser des travaux d'une valeur de 25% du prix d'achat. Le montant prêté dans le neuf comme dans l'ancien sera aussi augmenté jusqu'à 40% du prix d'achat. Nouveau aussi, tous les ménages éligibles bénéficieront de 5 années de différé de remboursement. On paiera plus tard, ce qui était ici jusqu'ici réservé aux accédants des tranches de revenus les plus basses. À voir à quelle hauteur sera fixée la notion de revenu des ménages, hein, parce que là, on ne sait pas pour l'instant. Dans le budget 2015, il était prévu une enveloppe de 1 milliard d'euros. Il n'a été consommé, cette enveloppe, qu'à hauteur de 600 millions d'euros, donc il y a de la marge. On attend un doublement du nombre de prêts avec ces nouvelles mesures. Alors les professionnels se montrent plutôt satisfaits de cette série d'annonces. Et un tout dernier mot, ces mêmes professionnels estiment que les ventes de logements anciens sur Paris sont à la hausse.
On va se retrouver dans quelques instants sur Sud Radio. Avec les tweets de l'actu, les sujets ou les messages les plus populaires aujourd'hui sur Twitter, on a beaucoup parlé évidemment du pic de pollution en Île-de-France et de l'éventuelle circulation alternée demain pour l'Île-de-France. Ça ne sera pas le cas, ce message de Ludovic Marin. Brouillard ou pollution, les deux à Paris aujourd'hui. Pour Anshan 17, circulation alternée envisageable, oui, mais quand le pic de pollution sera passé une fois de plus. Pour Boris Koutoui, la RATP toujours en retard, des lignes bondées et le réseau très cher. Les gens reprennent leur voiture. Sur Twitter, on a beaucoup parlé aussi aujourd'hui des deux pilotes de l'affaire dite d'Air Cocaine qui ont été écroués aujourd'hui en France avec cette annonce de RT Pierre, recherche personne aidant pour exfiltration en direction de la République dominicaine. Au final, c'était mieux là-bas. Et ce commentaire ironique d'Alexandre Thibault, j'en connais deux qui vont regretter d'avoir échangé un hôtel au bord de la plage contre deux cellules en France. Et puis, sujet aussi très commenté aujourd'hui sur Twitter, ça concerne Victor Newman, c'est le nom d'un des personnages des Feux de l'amour diffusés sur TF1 après le journal de 13h, puisque Victor Newman est mort. Ce message de Sabine 25, ne vous inquiétez pas, il revient dans le prochain épisode. Pour Semi, pas de panique, il renaît toujours de ses cendres. Et pour Spinette, les retraités ont pris le contrôle de Twitter.
Sud Radio, Cyril Brioulet.
Le grand show de l'info.
La suite du grand show de l'info avec Charles Becbédé aujourd'hui pour Merci Patron aux éditions Librio. Vous parlez du chômage dans le livre avec cette éternelle question. A-t-on tout essayé? Votre constat, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment dans l'impasse en France.
Bien, on est dans l'impasse, oui, parce que si on ajoute toutes les catégories de chômeurs, on est à plus de 5 millions, et puis je ne parle pas des millions de Français qui sont sous le seuil de pauvreté, alors que d'autres pays sont revenus à un niveau de chômage qui est finalement très bas, puisqu'on a franchi la barre des 5% en Angleterre, donc nous on est à plus de 10. Et je dis, la création d'entreprises peut être un moyen de réduire ce chômage, ou en tout cas le développement des toutes petites entreprises. Si elles augmentent un petit peu leur nombre de collaborateurs, eh bien franchement, on peut refaire de la France un pays avec un chômage très faible. Et à ce moment-là, ça change beaucoup, beaucoup de choses, parce qu'on le voit bien. On va sans doute parler de cette affaire qui concerne des banlieues difficiles. Mmh. Si on a là-bas le chômage, et chez les garçons, il est à 45%. Donc c'est sûr que si le chômage il était inexistant ou très faible, ils arrêteraient de se tourner les pouces et d'essayer de dire ah bah c'est toi que tu m'as mal regardé, je t'ai mal regardé, et puis ensuite de s'étriper. Mmh. Donc je pense que c'est un problème vraiment fondamental et je ne pense pas qu'on a tout essayé, contrairement à ce que disait un ancien président de la République, en l'occurrence François Mitterrand.
Mais s'il y avait une solution miracle, Charles Becbédé, elle aurait déjà été appliquée, on l'aurait déjà trouvée contre le chômage.
En fait, il n'y a même pas besoin d'inventer une nouvelle solution, elle est là, elle existe. L'entrepreneuriat, c'est un vrai phénomène. Il y a eu plus de 500 000 créations d'entreprises l'année dernière en France, en dépit, et c'est là qu'à mon avis il y a quelque chose sur lequel on peut agir, d'un environnement qui n'est pas hyper favorable à la création d'entreprises. Donc améliorons cet environnement, rendons les choses moins bureaucratiques, adaptons la fiscalité, assouplissons un petit peu le marché du travail, en tout cas pour les TPE et les PME. Et à ce moment-là, vous pouvez tout à fait réduire le chômage. Et donc c'est pas une solution miracle, c'est juste faire confiance à ceux qui sont sur le terrain et qui, tous les jours, essayent de créer de la richesse et de créer de l'emploi.
Mmh. Il y a des évidences aussi pour vous, hein, vous l'expliquez dans le livre. L'entreprise recrute si elle a d'abord un besoin, hein, le SMIC est trop élevé ou encore le marché du travail n'est pas assez flexible. Toute la classe politique ne l'a pas compris, ça, pour vous ?
Le SMIC, je suggère pas de le baisser. En revanche, je suggère de baisser les charges qui sont encore très élevées, même au niveau du SMIC. et ça s'aggrave après, bien sûr, et puis quelques assouplissements au niveau des procédures de licenciement. Le chef d'entreprise, même si c'est un tout petit entrepreneur, un patron d'une entreprise de 2-3 personnes, il a besoin de lisibilité. Si ça se passe pas bien après une embauche, il veut savoir combien ça va lui coûter si jamais il doit mettre fin au contrat, combien il devra verser d'indemnités de dommages et intérêts à la personne licenciée. Actuellement, il ne le sait pas. Il entend des histoires qui le rendent parano parce qu'on lui parle de un tel qui a dû payer 2 ans et donc il a mis les clés sous la porte, donc il n'embauche pas. Donc c'est vraiment là qu'il faut agir. C'est pas encore une fois, c'est pas de la science-fiction, c'est très simple. Emmanuel Macron essaye de le faire, mais
non sans difficulté.
Non sans difficulté, il s'est fait censurer par le Conseil constitutionnel, et je parle même pas de l'opposition qu'il a dû affronter au sein de la majorité. Mais là, je pense que il est temps d'agir parce que tous les autres pays l'ont fait. Ils voient le chômage qui baisse, et nous, on est là à attendre je ne sais quoi.
Merci patron, et signé Charles Bec BD avec nous jusqu'à 18h dans le Grand Show de l'Info.
Toi mon frère, dis-moi pourquoi la vie continue sans moi. Dis-moi pourquoi j'étais là. Un jour au mauvais endroit.
Deux jeunes sans histoire lynchés à mort, ce drame avait ému toute la France il y a 3 ans. Le chanteur Calogero leur avait rendu hommage avec cette chanson. Kevin et Sofiane avaient été tués à coups de pied, de couteau, de marteau à Échirolles dans la banlieue de Grenoble. Une bagarre avait éclaté avec des jeunes venus d'un autre quartier. Le procès des 12 agresseurs a débuté aujourd'hui aux assises de l'Isère. Ils risquent 30 ans de prison pour homicide volontaire. Maïssan Zitouni et Lézard, bonsoir. Vous faisiez partie de la bande d'amis de Kevin et Sofiane. Vous coordonnez le collectif Agir pour la paix, créé après leur décès. On va en parler. Dites-nous d'abord ce que vous ressentez aujourd'hui avec l'ouverture de ce procès.
Ce qu'on ressent, c'est que c'est sûr que c'est compliqué pour nous de nous positionner, parce que c'est un jour qui a été très attendu par tous les habitants, je pense, du bassin grenoblois, et encore plus par les proches. Donc c'est vrai que c'est un mélange de pas mal d'émotions, je pense, qui rejaillit tous en nous.
Vous attendez quoi du procès avant tout, que justice soit rendue?
Je pense qu'il faut que justice soit rendue.
Alors, on a un petit problème de connexion avec Maïssan Zitouni et Lézard qu'on va rappeler pour continuer cet entretien dans un instant et parler de ce collectif créé pour pacifier les relations dans les quartiers. Charles Becbédé, qu'est-ce que vous pensez de l'idée de ce collectif pour aller voir les jeunes, aller vers eux, dialoguer?
Ben oui, mais c'est indispensable. D'ailleurs, je voudrais saluer la dignité de la mère de Kevin, Aurélie Moncam Noubissi, qui a publié un livre témoignage « Le ventre arraché ». Où elle plaide pour un apaisement qui brise le cercle vicieux de la haine, de la vengeance. Alors bien sûr, elle veut aussi une justice exemplaire, c'est clair. Mais on ne pourra pas s'en sortir si on laisse les choses s'envenimer et un climat de haine toujours plus violent.
Alors on a retrouvé Maïssan Zitouni et Lézard, vous êtes avec nous de nouveau.
Excusez-moi.
Pas de problème pour parler de ce collectif Agir pour la paix. Voilà. Est-ce que toute la lumière a été faite aujourd'hui sur la mort de Kevin et Sofiane?
Concernant le procès et les Lumières, nous, Agir pour la paix, on ne se positionne pas. Je suis là aujourd'hui pour vous parler d'une initiative de jeunes citoyens de l'agglomération grenobloise qui a été prise au lendemain du drame de Sofiane et Kevin. Et notre volonté à toutes est de sensibiliser la jeunesse pour pouvoir crier plus haut et plus loin, plus jamais ça. Plus jamais ça, c'est les mots d'un artiste, l'artiste Calogero, qu'on remercie pour son travail, qui est lui-même d'Échirolles. Et nous, on a voulu vraiment faire de ces mots-là un écho, que ça résonne sur le territoire. Et puis on s'est lié avec une association de quartier d'éducation populaire, la MJC Robert Desnos, qui nous a soutenus et portés. Donc on les remercie vraiment pour ça. Ça a été un grand soutien, un grand coup de main.
Et vous agissez comment auprès de ces jeunes? Vous allez les voir? Vous leur
dites
quoi?
Alors nous, on se réunit de façon hebdomadaire. Donc chaque samedi, la porte de la MJC est ouverte à tous et à toutes. L'idée, c'est de se retrouver et d'aller vraiment sur le fond de ces questions de violence. C'est des questions qui font écho non pas seulement aux personnes qui ont été touchées par le drame, mais qui font écho partout. Quand on parle de violence, on a pu mener des ateliers Agir pour la paix dans des établissements. Et c'est vrai que ça rejoint aussi des violences d'harcèlement scolaire, ça rejoint des violences qu'on subit vraiment au quotidien. Et du coup, Agir pour la paix, ça en a fait son ampleur. Mmh. On est parti de ce drame-là et puis on va plus haut aujourd'hui.
Mais quel est votre message auprès de ces jeunes? C'est de dire qu'il ne faut pas répondre à la violence par la violence, c'est ça?
C'est
notamment
ça,
ce message.
C'est la continuité du discours de non-violence que nous ont transmis les parents de Kevin et Sofiane au lendemain du drame. Parce que quand on a vu la force qu'ils avaient, on s'est dit qu'on devait pérenniser cette action-là et on devait aller plus haut. Et au-delà de ça, il y a un collectif aussi, Marche Blanche, que je tiens à saluer. Il y a d'autres collectifs aussi qui sont présents et qui agissent depuis 2012. On a organisé un bel événement ce 2 octobre pour vraiment crier encore plus haut, plus jamais ça. Mmh. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on soit tous solidaires de la non-violence.
Mmh. Un message qui doit être dur à entendre, j'imagine, pour certains jeunes. On sait voilà, qu'on est ado, on est parfois sanguin, on est rebelle.
Bah oui, bien sûr.
Pas forcément facile à mettre en application.
Bien sûr, vous disiez juste, mais bon, en fait, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il ne faut pas attendre de vivre un drame pour pouvoir être dans cette démarche de construction et de non-violence. Parce que ce que je vois, c'est que partout ailleurs, il y a des collectifs qui se montent et qui se créent au lendemain de drames. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on n'attende pas forcément d'avoir été touché, mais qu'on se réveille dès maintenant, qu'on éveille ces consciences-là. Et c'est justement à un âge jeune que nous, on peut vraiment avoir un impact et créer un écho fort en eux. Parce qu'on ne va pas attendre que ces jeunes-là de 15 ans qui sont dans cette systémie-là grandissent pour pouvoir agir. Nous, ce qu'on veut, c'est les avoir maintenant à nos côtés.
Ils réagissent comment, ces jeunes, à ce discours?
Au discours de non-violence, bah déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un discours qui part de témoignages personnels. Et donc, forcément, ils réagissent très bien, parce que je pense que c'est des jeunes qui ont de l'admiration pour le chemin que les amis de Sofiane et Kevin parcourent, et qu'au-delà de ça, les proches parcours, ils disent ils ont vécu ça et pourtant ils sont pas allés le lendemain mitrailler tout ce qui passait de l'autre côté. Non, ils ont une démarche de construction, donc pourquoi pas voir ce que ça donne et voir comment nous on peut agir de notre propre expérience personnelle.
Et les parents de Kevin et Sofiane agissent, hein, continuent à agir notamment.
Très belles personnes.
Vis-à-vis de ces jeunes.
Ils sont très actifs. Je sais pas si on peut citer, mais vraiment. Je témoignerai toute mon admiration à Aurélie, qui hier est passée pour la première fois sur 7 à 8 et qui nous a donné un très très bel enseignement de la vie, de ce que c'était que le pardon, de ce que c'était vraiment que la non-violence. Et le papa aussi, qui est président de l'association d'ailleurs, de la MJC Robert Desnos, le papa de Sofiane, Mohamed Tadbir, qui nous soutient dans nos actions, qui est aussi au collectif de la Marche Blanche. Mmh. Et non, c'est des personnes vraiment qui sont dans l'action de la non-violence.
Oui.
C'est des personnes qui veulent porter ce message-là et qui transmettent par leur expérience ce besoin vraiment de continuer d'agir.
Merci Maïssa Ndipouni, Elisa.
Merci à vous.
Vous êtes coordinatrice du collectif Agir pour la paix en Isère. On se retrouve dans un instant, c'est Sud Radio, le grand show de l'info. Charles Becbédé est notre invité aujourd'hui, à tout de suite.
Sud Radio, le grand show de l'info.
Cyril Brioulet.
Charles Becbédé a écrit « Merci patron » aux éditions Librio. Vous faites cette proposition dans le livre, si au lieu de subventionner les chômeurs, on permettait à tous les Français de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Mais tout le monde n'a pas ces capacités ou cette envie de devenir patron un jour.
Ah, l'envie, en effet, il faut l'avoir. Mais je ne dis pas que tout le monde doit devenir entrepreneur et tout de suite. D'abord, je pense qu'on va avoir une vie professionnelle multiple. On est d'abord employé, puis ensuite on passe peut-être consultant, ensuite on prend une année sabbatique, ensuite on crée une boîte. On peut commencer d'ailleurs en étant auto-entrepreneur, et puis ensuite on passe au stade après, donc la création d'une entreprise. Puis ensuite, éventuellement, si ça marche, très bien, et si ça marche pas, après on peut aussi reprendre un emploi, et l'expérience d'avoir été entrepreneur, elle se valorise, même si on a échoué. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est en train de changer, c'est-à-dire que l'échec commence à être valorisé. Alors c'est pas chez tout le monde, hein, mais...
Vous parlez d'ailleurs de vos échecs, notamment avec les coffrets cadeaux Happy Time dans le livre, hein. Vous dites qu'il faut apprendre, absolument, évidemment, de ces échecs.
Ben évidemment, et aux États-Unis, un entrepreneur qui a échoué, il vaut plus qu'un entrepreneur qui a réussi, c'est dingue. Bon, ça commence à venir aussi en France. Fleur Pellerin, quand elle était ministre des PME, elle a supprimé la notation 0,40 à la Banque de France, qui stigmatisait un petit peu les entrepreneurs dont l'entreprise avait fait faillite en respectant les règles. Ça c'est une bonne chose, je pense. Il y a toujours d'autres mauvaises notes qui existent quand on franchit la ligne jaune, mais donc faut le garder. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a Il faut qu'on instaure un environnement réglementaire plus favorable à la création d'entreprises au niveau du financement, donc des prélèvements obligatoires, de la fiscalité. C'est pour ça que moi je prône une flat tax. On avait tout à l'heure un professeur d'histoire et de fiscalité. On aurait pu débattre ensemble sur cet impôt proportionnel que je préconise, qui se substituerait à tous les impôts qui pèsent sur les ménages aujourd'hui. Et c'est d'actualité. Mais les gens, parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils payent pas d'impôts, mais ils payent de la CSG en fait. Et on pourrait avoir un impôt, une CSG qui commencerait à 8%, qui se terminerait à 15% sur tous les ménages. Ça serait hyper simple. Les autos tuent les totos, donc il faut la fiscalité. Personne n'aime payer les impôts. Il faut une base très large et un taux faible. Et je vous assure que les recettes augmenteraient et en ferait de la France un des pays les plus attractifs au niveau fiscal, et notamment et ceci favoriserait la création d'entreprises. Par ailleurs, il faut donner plus de flexibilité sur le temps de travail, sur les licenciements, j'en parlais tout à l'heure, sur aussi le problème au sein des entreprises un peu plus importantes d'élection des représentants des salariés, où là aujourd'hui on marche sur la tête et on a encore un monopole qu'on appelle le monopole du premier tour, qui force à ce que ceux qui veulent représenter les salariés soient syndiqués dans une des 5 grandes centrales. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'un autre âge. Donc il faut dérigidifier, simplifier l'environnement, en plus d'adapter la fiscalité.
Vous avez souvent été pionnier avec vos entreprises dans le courtage en bourse avec Celltrade, l'électricité avec Poweo. Est-ce qu'il faut avoir le nez creux quand même quand on veut devenir patron, un sixième sens des affaires ?
Non, mais c'est sûr, c'est mieux, parce que le business, c'est concurrentiel, c'est mieux d'identifier quelque chose qui n'existe pas.
Donc, trouver la bonne idée.
Un déficit d'offres. Donc, mais c'est valable dans tous les domaines. Donc, souvent, en France, parce qu'on a des blocages, il y a des choses qui n'existent pas, alors que ça existe en Angleterre ou même en Italie. Donc, identifier un service, un bien qui n'existe pas, et créer une entreprise sur ce créneau en France, en l'adaptant au contexte français.
Oui. René Germain.
Oui, Charles Beguidet, je voudrais que vous vous transformiez un instant en voyant, en devin. Le prix du pétrole ne va pas bouger beaucoup dans les mois qui viennent.
Ok, d'accord. Oui. Bouge pas. Oui. Je valide.
La Chine, alors, est-ce qu'on nous cache des choses? La Chine est en décroissance, pas en décroissance, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, ou alors les dirigeants chinois sont suffisamment costauds, forts, pour maîtriser la situation?
Ben écoutez, ils en ont les moyens politiques et financiers, donc je pense que le slowdown, comme on dit en anglais, donc le ralentissement est en train de a atteint un certain plancher, et donc on peut s'attendre à ce que la situation s'améliore de ce côté-là, je pense.
Dernière chose, si vous le permettez, les taux américains vont vraisemblablement remonter à la fin de l'année, au mois de décembre. Est-ce que nous allons en être victimes aussi?
Non, parce que ça va renforcer le dollar, donc ça peut au contraire être bon pour nos exportateurs et donc bon pour l'économie française.
Qui est le chef d'entreprise, Charles Beigbeder, qui vous impressionne le plus en ce moment en France?
Je ne peux pas ne pas mentionner Xavier Niel quand même, à la tête
PDG de Free.
De Free, et qui là se lance dans un raid pour contrer Vincent Bolloré sur Telecom Italia. C'est quand même assez fantastique, parce que je connais son parcours, on se connaît, et c'est admirable. Mais on pourrait en citer énormément, ceux qui viennent de rentrer en bourse là, avec voyage privé, non c'est pas
c'est showroom privé,
pardon. C'est magnifique aussi. Je regrette un peu pour Deezer qu'ils aient différé l'opération. Mais il y a quantité de patrons de start-up, technologiques ou pas, qui réussissent. D'ailleurs, vous avez vu que le président de Cisco, John Chambers, avait décidé de doubler la taille de son fonds d'investissement sur la French Tech. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles, il y a des choses positives. Simplement, ce que je dis, c'est qu'on pourrait faire 2-3 fois mieux. Et c'est dommage qu'on n'agisse pas là-dessus parce que le chômage, il est là et il augmente pendant ce temps.
Bon, il faut y croire. Voilà le message. Merci Charles Becbédé. Le livre s'appelle Merci Patron, c'est aux éditions Librio. Merci à vous.